est absolument essentiel.
Oui, absolument.
Absolument pas. Absolument.
Essentiel. Une émission présentée par Thomas Lacombe.
Pour l'essentiel, l'homme est ce qu'il cache, un misérable petit tas de secrets. André Malraux, Les Noyers de l'Altenbourg. Bonjour, et surtout du fond du cœur, bonne année, chères auditrices, chers auditeurs. Souhaitons-nous que 2016 soit une année plus joyeuse et légère que ne le fut 2015. Souhaitons-nous surtout de pouvoir profiter de ce que nous considérons, chacun dans nos vies, comme absolument essentiel. 2016 commence avec deux hommages, l'un à Michel Delpech, décédé le 2 janvier à l'âge de 69 ans, l'autre à Michel Galabru, décédé le 4 janvier à l'âge de 93 ans.
Ma mère a couché avec un chemin.
Qu'est-ce que vous dites ?
Je dis qu'en 1934, ma mère a couché avec un chetemis. Ils s'appellent comme ça, là-haut, les femmes, les enfants, les enfants, les chetemis.
Des chetemis ?
Même les animaux, c'est des chetemis. Les chiens, c'est des chetemis. Les chats, c'est des chats, les chetemis. Et la langue aussi, c'est du chetemis. Ils font des O à la place des A. Des queues à la place des cheux. Et les cheux, ils les font. Mais à la place des ceux. C'est des fanas. C'est le Nord.
Tu mais que Marianne était jolie quand elle marche dans les rues de Paris en chantant à pleine voix. Ça ira toute la vie.
En ce début janvier, c'est la mort d'un François que Marianne, qui était si jolie, commémore. Celle de François Mitterrand, mort à 80 ans, le 8 janvier 1996, c'était il y a 20 ans. Pour parler du premier président socialiste de la Ve République, mon invité, cette semaine, fut chargé de mission à l'Élysée entre 1992 et 1995. Mon invité est historienne de formation et François Mitterrand l'a nommé mandataire des archives des deux septennats. Mon invité a été maire du 4e arrondissement de Paris entre 2001 et 2012. Mon invité a été ministre délégué à la famille dans les gouvernements Hérault 1 et 2 entre 2012 et 2014. Mon invité, c'est Dominique Bertinotti. Elle est aujourd'hui membre du Conseil d'État et c'est là qu'elle m'a reçue. Avec elle, nous allons revenir sur la figure de François Mitterrand qu'elle a bien connue et nous allons parler de son engagement à elle, de son entrée en politique comme maire d'arrondissement, au soutien à Ségolène Royal en 2007, en passant par son poste de ministre et la médiatisation de son cancer du sein. Elle revient enfin sur la loi dite du mariage pour tous et elle regrette, vous allez l'entendre, le manque de préparation de la gauche et la longueur des débats. Bref, ce qu'elle a à nous dire est absolument essentiel. Rencontre. Bonjour Dominique Bertinotti.
Bonjour.
Plus que jamais, 2016 sera placé sous la figure de François Mitterrand puisque seront commémorés les 100 ans de la naissance et les 20 ans de la mort du premier président socialiste de la Ve République. J'ai 24 ans, j'avais 4 ans quand François Mitterrand est mort et j'étais trop petit pour avoir des souvenirs là-dessus. Je sais juste que c'est la seule fois où ma mère est venue en retard à l'école me chercher, c'était le jour des obsèques de François Mitterrand. J'ai interrogé des amies, deux m'ont dit, elles avaient 5 ans à l'époque de la mort de Mitterrand, que c'était le premier souvenir qu'elles avaient, c'était celui de l'enterrement de François Mitterrand. Adulte, enfant, que ce soit le 8 janvier 96, date du décès, ou le 11 janvier 96, date des obsèques à Notre-Dame, ce furent des moments fondateurs, importants pour les Français, pour les Françaises. Et vous, Dominique Bertinotti, quels souvenirs gardez-vous de ces jours si particuliers ?
Ce sont des jours d'émotion parce que, en fait, il y a eu le lundi l'annonce du décès de François Mitterrand. Et puis, dans la journée de lundi, on a vu au pied de l'immeuble des gens venir spontanément en masse déposer une rose. Et comme ça a pris des proportions considérables, mais considérables, il y avait des monceaux et des monceaux de roses, nous avons également décidé, puisque lui avait décidé de se faire enterrer à Jarnac, de faire un rassemblement en place de la Bastille le mercredi soir. Et c'était impressionnant. Les hommes et les femmes de gauche sont venus rendre un dernier hommage. J'avais trois très belles photos de François Mitterrand. Barbara Hendricks a chanté « Le temps des cerises ». Des centaines de cahiers de doléances ont été remplis partout. Après, il y a eu l'hommage officiel où il y a eu les larmes d'Helmut Kohl. Et puis, moi, j'ai assisté à cette cérémonie à Jarnac avec ce souvenir. Vous savez, François Mitterrand, dans son dernier message aux Français, avait dit « Je crois aux forces de l'esprit ». Et donc, on arrive sur la place centrale de Jarnac, le cercueil est posé, recouvert du drapeau français. Et au moment où commence la cérémonie, il y a eu un coup de vent et le drapeau s'est soulevé et a été rattrapé in extremis. Voilà.
Et vous l'avez bien connu, puisque vous avez été chargé de mission à l'Élysée entre 92 et 95. Vous l'avez donc accompagné durant les dernières années de son second septennat, époque où, on le sait, il était gravement malade et il en souffrait.
Je n'ai jamais vu un homme qui, bien que étant malade et bien que ayant des souffrances, mette ses souffrances sur le devant. Il m'est arrivé de devoir aller lui porter des notes dans sa chambre, mais je n'ai jamais eu affaire à un malade. Oui. J'ai toujours eu affaire à un président.
La question, c'est ça. Ça a fait polémique à l'époque et encore après. Oui. François Mitterrand était-il capable encore d'être président de la République ?
Bien sûr.
Pour vous, pas de tergiversation.
Il n'y a personne qui ne conteste jusqu'au bout sa sagacité intellectuelle, son goût pour la chose politique. Je pense que le meilleur remède à sa maladie a été le goût qu'il avait pour l'exercice du pouvoir, laisser une trace dans l'histoire.
Alors on va justement parler de ce goût pour l'exercice du pouvoir. Vous avez accordé au Point en 2011 un entretien à propos justement de votre poste à l'Élysée en 92-95. Vous déclariez ceci: ce fut un apprentissage extraordinaire du pouvoir, une leçon de choses au-delà de mon travail qui consistait à lui écrire des notes sur tous les sujets. Il m'a fait participer à des déjeuners et des voyages officiels. J'ai vu le pouvoir dans ce qu'il a de grand, mais aussi dans ce qu'il a de plus terrible, les bassesses humaines. Le pouvoir dans ce qu'il a de grand, qu'est-ce que c'est, Dominique Bertinotti ?
Le pouvoir dans ce qu'il a de grand, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez des circonstances qui font que les hommes se subliment, c'est-à-dire prennent conscience de l'importance de l'enjeu et ça dépasse complètement leur personne et ils sont capables de se hisser à la hauteur des événements et vraiment d'avoir ce sens de l'intérêt général, de porter une nation, de porter des objectifs ambitieux.
Vous parlez d'un habitus, ou vous faites référence à des circonstances particulières, des événements particuliers qui vous reviennent?
On sait par exemple très bien, en 1984, l'Europe est en panne, Margaret Thatcher bloque tout le processus, et on voit François Mitterrand, président de la République, prendre son bâton de pèlerin et aller dans toutes les capitales et dire, parce que ça c'est la présidence française de l'Union européenne, de dire, eh bien nous allons relancer l'Europe, nous ne pouvons pas nous en arrêter là. Et bon, il le fait avec détermination, avec conviction, avec engagement. Mais ça concerne d'une façon générale, je dirais, les responsables politiques, les grands responsables politiques, à un moment donné, connaissent ce moment de sublimation, de dépassement. La cérémonie du Panthéon, voilà, c'est ça. C'est à un moment donné, c'est au-delà du personnage de François Mitterrand. Hein, c'est la capacité à incarner un collectif, un ensemble.
De la grandeur, on en parle. aux bassesses humaines, pour reprendre votre citation. La fin du second septennat correspond à la multiplication des affaires, la mort de Pierre Bérégovoy, celle de François de Grossouffle, les révélations de Pesquet sur l'attentat de l'Observatoire en 59, celle de Pierre Péan dans son livre « Une jeunesse française », entre autres. Comment le président a-t-il vécu cette période troublée ?
Vous savez, lorsque on a vu que le livre de Pierre Péan allait déclencher une polémique, et pas des moindres, je me souviens d'un rendez-vous dans son bureau où je lui faisais remarquer la virulence de la polémique. Il m'a dit « Mais c'est un combat de plus dans ma vie. J'y suis habitué. »
Donc combattant même sur ces sujets-là.
Oui.
Alors, en cette période de commémoration, si l'on peut dire, les documentaires, les émissions font florès. D'ailleurs, cet entretien rentre dans cette catégorie, va-t-on dire. Certains, dans cette entreprise mémorielle, ne semblent retenir que les bassesses humaines et pas les grandeurs. En ce qui concerne donc la mémoire de François Mitterrand, ainsi, en décembre dernier, Jack Lang a-t-il écrit une lettre à la présidente d'Arte, Véronique Kella, pour témoigner de son indignation après la diffusion d'un documentaire de William Carrel, « François Mitterrand, que reste-t-il de nos amours ?» que l'ancien ministre de la Culture jugeait à charge. Vous l'avez vu, ce documentaire ?
Alors, il se trouve que je ne l'ai pas vu. Oui. J'ai vu, effectivement, les interventions de Jacques Lang. Moi, je vais vous dire, je suis historienne. Hein, oui, j'ai enseigné à l'université l'histoire contemporaine. Il y a deux remarques que je voudrais faire. D'une part, déjà de son vivant, Mitterrand, on l'aimait ou on le détestait. C'est pas du tout un homme de...
Pas de juste milieu.
Pas de juste milieu. Bon, on aurait pu penser qu'une fois disparu, les choses puissent un peu s'apaiser et au moins retrouver un peu de sérénité. Bon, bah, je constate que 20 ans après, ça déclenche les mêmes enthousiasmes, les mêmes réprobations. J'ai envie de dire, le temps de l'histoire n'est pas encore complètement arrivé et pourtant, avec les archives nationales, nous faisons un travail considérable pour ouvrir les archives, pour laisser les historiens donc, qui ne sont ni dans la géographie, ni dans la détestation, qui veulent tout simplement examiner ce qu'a représenté la victoire en 81, la durée de la gauche au pouvoir.
Et en même temps, quand vous voyez, vous lisez Jack Lang, ancien ministre, qui envoie une lettre à une présidente de médias, vous ne dites pas, là, il y a un petit problème, est-ce qu'on n'est pas dans une posture de gardien du temple ?
Moi, je n'ai jamais été dans une posture de gardien du temple et je ne pense pas que François Mitterrand, en m'ayant nommé mandataire des archives présidentielles, ait voulu que je sois gardienne du temple. Il me savait historienne, il m'a embauchée pour cela, et donc était tout à fait au fait de la méthodologie que s'imposent les historiens. Et donc, ce qu'il m'a demandé, c'est que ces archives qui, normalement, sans mandataire, auraient été inconsultables pendant 60 ans, puissent être soumises à dérogation et puissent, dans des conditions définies par la loi sur les archives, être consultées pour que l'histoire puisse se faire avant. Ben, je vois qu'il suscite encore tellement de polémiques, d'attraits.
Mais de manière générale, et surtout en tant qu'historienne, vous regrettez que souvent dans les médias, on ne retienne en ce moment de François Mitterrand plutôt ça, la maladie, les polémiques, etc. Vous le regrettez ?
Oui, parce que moi j'attends le grand documentaire sur... qu'est-ce qu'a représenté l'arrivée de la gauche au pouvoir en 80 ? Qu'est-ce que ça a incarné avec son lot de choses très positives et puis, oui, aussi une part de déception. Et pour l'instant, on n'en est pas encore là.
Alors justement, on ne va pas tomber dans l'écueil que je soulignais, on ne va pas non plus tomber dans celui du panégyrique, mais pour autant, que retenez-vous, Dominique Bertinotti, de François Mitterrand en tant que président de la République?
Je suis d'une génération dont les parents n'avaient jamais pu connaître la gauche au pouvoir. C'était systématiquement la droite et la gauche était en état de quasi-mort dans les années 60-70. Bon. C'est vrai que François Mitterrand a redonné une espérance que la gauche puisse accéder au pouvoir. Et plus que cela, il a démontré que la gauche pouvait gouverner et gouverner dans la durée. En 1981, on nous annonçait les chars russes sur la place de la Concorde, parce qu'il y avait une alliance avec le Parti communiste. On n'a pas eu les chars russes sur la place de la Concorde. Et en 1986, lorsqu'il y a eu la cohabitation, on nous annonçait la fin de la constitution de la Ve République. Et voilà. Donc, ne serait-ce que pour cela, François Mitterrand a contribué à l'extrême modernisation de notre démocratie, oui à l'alternance, où on peut voter à gauche, on peut voter à droite, et non plus ces côtés mais vraiment caricaturaux qu'il y avait à l'époque où voter François Mitterrand, c'était voter extrême gauche. Voilà.
Donc ça, c'est ce que vous retenez pour le côté François Mitterrand, président de la République, oui. Et en tant qu'homme.
Je veux dire, c'est indissociable de l'homme parce qu'il il fait partie de cette génération de jeunes hommes politiques qui entrent en politique au lendemain de la libération. Et il a une formation qui fait qu'il a une vision et une lecture globale et puis une culture immense. Et donc, il a ce côté, je dirais, visionnaire de dire « la gauche ne reviendra au pouvoir ». Qu'avec une alliance avec le Parti communiste, parce que le Parti communiste est alors très fort, et le premier parti de gauche, et tant que le Parti communiste sera le premier parti de gauche, la gauche ne reviendra pas au pouvoir. Et il fait Épinay, et il est capable de par son autorité aussi naturelle qu'il a, de fédérer et d'incarner le renouveau de la gauche.
Alors cette incarnation de la gauche, vous l'avez côtoyée à l'Élysée quand vous étiez chargé de mission. Vous avez ensuite participé à la création de l'Institut François Mitterrand. Vous avez été sa secrétaire générale à cet institut entre 1996 et 2001. Et puis, vous êtes lancé vous-même en politique. D'abord en tant que maire du 4e arrondissement de Paris, élu en 2001, puis de nouveau en 2008. Pourquoi avoir décidé de sauter le pas et de passer de l'ombre, celle d'une conseillère, d'une chargée de mission, à un mandat ?
Pour moi, c'est un tout. Pour moi, c'est un tout. J'ai été très marquée par les écrits de Marc Bloch, de Lucien Febvre, et c'est très intéressant. Lucien Febvre dit, si un historien, en clair, pour résumer de façon peut-être un peu simpliste la pensée de Lucien Febvre, mais si un historien ne sait pas s'engager dans sa propre société, il ne sera pas un bon historien. Et donc, il y a eu à un moment donné, pour moi, quelque chose d'assez évident. C'est pas du tout ni une rupture, ni quoi que ce soit. C'est une forme de continuité. J'étais spectatrice de l'histoire, je deviens actrice, et ça me permet d'avoir une vision plus complète, finalement, du fonctionnement d'une société, du fonctionnement des différents pouvoirs.
On parle de continuité. En 2007, vous prenez une part active dans la campagne de Ségolène Royal. Puisqu'on parle de continuité, vous avez pensé à François Mitterrand pendant cette campagne-là, lui qui a été l'homme de tant de campagnes, notamment présidentielles.
Oui, parce que j'estime que François Mitterrand n'est pas un personnage conformiste. C'est-à-dire, il ne vient pas d'un milieu social qui le prédestine à ceci, puis étant ceci, politiquement, il sera cela. Oui. Il vient d'un milieu de droite, il incarne le triomphe de la gauche au pouvoir. C'est un homme qui est un homme qui ne fréquente pas un seul milieu, mais qui a, et on le voit dans son entourage, on a pu aussi lui reprocher, mais une variété de profils, qui est un homme d'une curiosité folle, qui est tout sauf ce que moi j'appelle conformiste, qui a un contact avec les paysans de la Nièvre extraordinaire, plein d'échanges, plein de respect, et en même temps il peut être dur avec les puissants. Et c'est ça que je retrouvais dans la campagne de Ségolène Royal, une forme de transgression des lignes traditionnelles, des chemins tout tracés.
Alors Ségolène Royal, l'histoire le retient, fut battue par Nicolas Sarkozy, mais 5 ans plus tard, François Hollande l'emportait, et vous deveniez, en 2012, ministre délégué à la famille dans les gouvernements Hérault 1 et Hérault 2, et vous avez porté, avec la garde des Sceaux Christiane Taubira, la loi dite du mariage pour tous. Vous avez conscience que c'est certainement la loi que les Françaises et les Français vont retenir du quinquennat de François Hollande ?
Oui, j'en fais le constat.
C'est un constat ou c'est aussi une fierté ?
Ah, pour moi, c'est une fierté. Pour moi, c'est une fierté parce que je me souviens très bien de ce qu'a représenté 1980. Hein, les radios libres, aujourd'hui, ça paraît très, très courant, mais l'abolition de la peine de mort et le courage avec lequel ça s'est fait, les avancées sociales quand même, moi je suis désolée de dire, une réflexion sur le temps de travail, permettre à tous d'avoir une vraie retraite, bon, c'est quand même, ça incarnait absolument...
Est-ce que vous voulez dire, c'est que vous avez là l'impression d'avoir incarné ou porté une loi qui est dans cette filiation-là, c'est
oui,
ça que vous voulez dire?
Absolument.
Ça a été une période troublée, difficile aussi, oui, de porter cette loi.
Oui, moi je pense que... moi j'avais une très bonne connaissance de ces questions, parce que j'étais maire du 4e arrondissement, et que de fait je voyais vivre ces hommes et ces femmes. Et que pour moi une famille homoparentale n'était pas une découverte. Enfin, ça, voilà.
Donc, c'était une découverte pour certains à gauche?
Ah oui.
Dans votre gouvernement?
Je pense que ça a été une découverte pour certains à gauche parce que la question n'avait pas été vraiment traitée par le Parti Socialiste. Ça avait été délégué au mouvement HES, mais ça n'avait pas été traité en tant que tel. Et en particulier, ce qui n'avait pas été du tout abordé et qui s'est installé dans le débat du mariage pour tous, c'est tout ce qui tourne autour de la filiation. Filiation sociale, filiation biologique, et là, le constat brusquement que même indépendamment de l'homosexualité, bah vous avez de plus en plus d'enfants qui naissent pas simplement d'un père et d'une mère, d'un père et d'une mère à l'état civil, mais génétiquement, c'est pas le père et la mère, bon, voilà. Et donc, il y a une prise de conscience, de réflexion sur la diversité des modèles familiaux, et là, je pense que la droite n'en voulait pas et la gauche n'était pas préparée. Bon. Donc voilà, donc je pense qu'il aurait fallu un débat beaucoup plus ramassé, beaucoup plus court, où on décidait de cela, et plutôt que de penser qu'on allait emporter la conviction sur des questions qui sont comme celles, un peu comme celle de l'abolition de la peine de mort. Si on avait commencé à discuter et à laisser s'enferrer le débat, est-ce que ça a une vertu dissuasive, pas dissuasive, on n'aurait jamais aboli la peine de mort.
Vous regrettez la méthode, vous parlez de temporalité, ça s'est fait trop tôt dans le quinquennat?
Non, il fallait le faire tôt, mais il ne fallait pas donner cette longueur de débat dont il y a eu 160 heures de débat.
Sans compter toutes les consultations avant, vous avez mené Christiane Taubira.
Sans compter toutes les consultations avant, les réunions en commission et tout cela. Mais dans les 160 heures, je suis sûre que vous pouvez en enlever une moitié. Parce que ce ne sont que des redites. Quand vous avez une opposition qui dépose 500 fois le même amendement, je ne vois pas en quoi ça apporte quelque chose au débat.
Alors le 31 mars 2014, le poste de ministre délégué à la famille qui a permis cette loi n'était pas reconduit dans le gouvernement Valls. Et vous quittiez donc les fonctions ministérielles. Vous êtes depuis 2014 membre du Conseil d'État. Mais avant cela, en 2013, vous avez révélé au journal Le Monde que vous souffriez d'un cancer du sein. Non seulement vous avez décidé de jouer la transparence au sujet de votre maladie avec courage, mais vous avez décidé d'en faire un combat féministe. Vous déclariez d'ailleurs encore récemment, dans un entretien daté d'octobre 2015 pour Marie-Claire, « Les femmes atteintes d'un cancer du sein doivent avoir le choix, travailler ou non. » C'est important pour vous?
Oui, parce que y a une deuxième chose qui est importante, c'est le droit à l'oubli. Nous sommes dans une société où le mot cancer est encore un mot qui est associé à la mort, à la disparition. Quand on veut parler d'un fléau social, on dit que c'est un cancer. C'est donc terrible parce que il faut savoir que globalement, un cancer sur deux se guérit. Donc c'est terrible, c'est pas encore suffisant, c'est pas encore une maladie anodine, mais c'est une maladie dont on peut guérir et de toute façon dont l'espérance de vie ou de survie, qui est un très vilain mot utilisé par les médecins, fait que vous n'allez pas vivre tous les matins en vous disant « Ah, j'ai eu un cancer ». Bon, donc il fallait changer le regard sur le cancer déjà. Et ensuite, il y a un combat tout à fait réel sur le fait du droit à l'oubli, c'est-à-dire que les assurances, les banques ne disent pas « Oh là là, vous avez eu un cancer, alors vous êtes beaucoup plus fragile que votre voisin ou votre voisine qui, lui, peut se faire écraser dans l'instant. Bon. » Donc voilà, c'est un changement de regard à provoquer au sein de la société et des institutions. De la même façon que comme ministre de la Famille, nous discutions avec le monde de l'entreprise pour dire « vos salariés sont aussi des parents, donc ne l'oubliez pas », j'ai envie de dire au monde des entreprises « vos salariés peuvent être aussi des malades, ne l'oubliez pas ».
Malgré ce droit à l'oubli, vous permettez que je vous pose encore quelques questions sur le sujet. Parce que dans cet entretien à Marie-Claire en octobre 2015, vous alliez plus loin. Vous avez parlé là à l'instant de choses concrètes, de banques, etc. Vous parliez des perruques. L'appréhension que vous avez pu ressentir lors des premières questions au gouvernement, vous étiez si bien coiffé, pour reprendre le mot qui vous a fait sourire à l'époque, d'un de vos collègues ministres. Et vous dites dans cet entretien, oui, mais il y a aussi un problème de discrimination pour celles qui portent des perruques ou ceux qui portent des perruques. Il y a des perruques bon marché, il y a des perruques de meilleure qualité et elles ne sont pas assez remboursées.
C'est tout à fait ça. C'est-à-dire que en termes de soins, qui que vous soyez, vous allez avoir les mêmes soins. Et ça, c'est un acquis fondamental et qui fait la force du système de santé français. Mais après, le cancer, c'est aussi beaucoup d'accompagnement. Beaucoup d'accompagnement. Il y a tellement d'effets secondaires que ce n'est pas simplement recevoir les traitements. C'est aussi pouvoir gérer l'autour.
On précise néanmoins que les perruques sont déjà en partie remboursées, mais vous dites pas suffisamment.
Non. Et donc, là, pour le coup... Et puis il y a les médicaments dont certains sont remboursés, d'autres pas, et qui vous aident à supporter certaines douleurs. Bon. Donc on voit bien que là, les inégalités sociales reprennent le pas. C'est-à-dire que oui, on soigne tout le monde de la même façon, mais l'accompagnement de tout ce qui va autour de la maladie, de l'appel aussi à des aides à domicile, quand on a des jeunes enfants, etc., tout ça c'est à créer.
Dans votre intention de médiatiser votre maladie, votre combat contre cette maladie, il y avait-il, consciemment ou inconsciemment, une volonté de ne pas faire comme François Mitterrand avec sa maladie à lui ?
Je ne me suis jamais posé la question par rapport à François Mitterrand. D'abord parce que, je vais vous dire une chose, avec François Mitterrand, nous n'avons jamais parlé maladie.
Jamais ?
Jamais. Il faut donner une vraie consistance au mot transparence.
Oui.
Parce que moi, j'ai beaucoup réfléchi avant de m'exprimer.
Oui.
Et j'ai fixé des limites, y compris à la journaliste qui m'a interviewée. Il y a des choses qui relèvent de mon intimité et qui ne regardent personne. À l'inverse, à partir du moment où j'ai estimé que ça pouvait aider d'autres personnes, et on a vu ensuite beaucoup plus d'élus qui ont commencé à dire qu'ils étaient malades, je me suis dit c'est un acte politique. Donc voilà, c'est ça qui m'intéressait dans la révélation, c'est de dire l'état de la société peut supporter qu'effectivement il faut pouvoir dire Oui, j'ai un cancer, oui, je me soigne, oui, il y a des moments, je suis un petit peu plus faible physiquement, mais ça ne change rien, mes compétences, mes qualités.
Deux questions pour conclure cette première partie de notre entretien. Leur formulation est simple, la réponse l'est peut-être moins. Vous l'avez bien connu, qu'est-ce qui était absolument essentiel, pour reprendre le titre de l'émission, dans la vie pour François Mitterrand, Dominique Bertinotti?
Je pense qu'il tenait tout particulièrement à sa liberté.
Et pour vous, qu'est-ce qui est absolument essentiel dans la vie?
Je pense que j'aurais tendance à dire, à répondre la même chose.
Oui.
Mais j'avoue que François Mitterrand a été assez extraordinaire dans la réalisation, parce qu'on peut dire je suis attachée à mon libre arbitre, moi je veux dire le libre arbitre, après il faut l'exercer. Et là j'ai eu un maître en la matière, mais peut-être justement parce que j'ai eu un maître en la matière, savoir dire non, savoir faire la différence entre compromis et compromission, avoir deux trois idées bien claires dans la tête et s'en tenir. Tout ça, c'est cet apprentissage-là que je trouve aller même au-delà de la politique. Et j'avoue franchement que c'est devenu également quelque chose d'important pour moi.
Merci, Dominique Bertinotti.
La semaine prochaine, je vous proposerai la deuxième partie de cet entretien. Nous reviendrons sur l'héritage politique de François Mitterrand et vous entendrez une Dominique Bertinotti assez dure contre Lionel Jospin et contre la situation actuelle de la gauche. Nous parlerons également des archives des deux septennats de François Mitterrand, dont elle est mandataire. Et puis nous parlerons un peu d'histoire également. Bref, vivement la semaine prochaine. Et d'ici là, surtout, n'oubliez pas l'essentiel.